Radio Okapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Le gouvernement congolais vivement engagé à maintenir le prix du litre du carburant à 2990 francs congolais et demeure aussi déterminé à en assurer un approvisionnement régulier. Information à suivre en ouverture de ce journal. À suivre aussi dans cette édition, c'est cette dénonciation de la Fédération des entreprises du Congo de Kassindi-Loubiria. Des habitations sont visitées par des bandits et des personnes attaquées à l'arme blanche. Elle interpelle ainsi le gouvernement. Thérèse Kulungu, membre du conseil d'administration de la Fondation Panzi basée à Bukavu, plaide en fin de ce journal pour la mise en œuvre de la justice transitionnelle en vue d'amener les victimes de ces violences à obtenir justice et réparation. Elle est invitée de ce journal. Ensemble, découvrons les autres aspects de l'actualité du Congo profond. Bienvenue et excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Fidèles auditeurs, bonsoir. Aucune raison ne peut justifier la rareté du carburant à la pompe dans la ville de Kinshasa et en RDC en général. Le gouvernement congolais réitère son engagement pour le remboursement du manque à gagner aux pétroliers. C'est ce qui ressort des entretiens entre le ministre congolais de l'économie nationale et les opérateurs économiques du secteur pétrolier. C'était ce jeudi 17 octobre 2024. Détail avec Emmanuel Elamiji Wakabidi.
La rencontre Daniel Mukokosamba et les pétroliers intervient quelques jours après la baisse du prix du litre de carburant à la pompe. Le prix du litre est passé de 3440 francs à 2990 francs congolais. Ainsi, aucune raison ne peut justifier une quelconque rareté du carburant sur le marché. Monsieur Franck Bozard, président du groupe professionnel des distributeurs de produits pétroliers.
Cette rencontre a permis de nous rassurer pour que nous puissions continuer à travailler main dans la main en vue de l'approvisionnement régulier du pays. Et il n'y a pas de problème de pénurie, comme d'aucuns ont voulu le dire. Il n'y a jamais eu de problème de pénurie. Plutôt, je dirais que c'était une conséquence positive à la suite de la baisse des prix.
Les opérateurs économiques du secteur pétrolier se disent satisfaits des engagements pris par le gouvernement congolais au sujet du manque à gagner.
Nous avons reçu des assurances du gouvernement que tout sera réglé dans les meilleurs délais. Donc, nous sommes plutôt confiants. Et nous aurons des réunions de certification dans les prochains jours. Ce n'est qu'à l'issue de ces réunions que nous connaîtrons les chiffres exacts de manque à gagner. Ça nous réjouit.
Signalons que malgré la baisse du prix de carburant, les prix des autres produits et services restent toujours en hausse, notamment les transports en commun.
Pour sa part, le ministre d'État chargé de l'agriculture et sécurité alimentaire invite toutes les couches sociales à s'impliquer dans le secteur agricole. Il l'a dit hier jeudi à l'occasion du lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025 à l'échangeur de Limité ici à Kinshasa. Au cours de cette cérémonie, des semences, des tracteurs agricoles et autres engins roulants ont été remis aux différentes provinces du pays. L'objectif est de leur permettre d'appuyer les agriculteurs locaux et couper court à la consommation des produits champêtres venant de l'étranger. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, qui représentait la première ministre. Reportage de John Chibobo.
Cette campagne s'inscrit dans l'idée de la revanche du sol sur les sous-sols souhaitée par le chef de l'État. Grégoire Moutaïl Moutombe, ministre d'État chargé de l'agriculture, appelle tout Congolais à faire le champ.
Nous sommes restés très longtemps sans faire les travaux champêtres. Nous mangeons les produits qui viennent de l'étranger. Il est temps de faire la revanche du sol sur le sous-sol prôné par les chefs de l'État. Nous vous demandons aujourd'hui, avec amour, de faire les champs.
Plusieurs matériels et semences ont été remis aux provinces. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières appelle le bénéficiaire à en faire un bon usage. Jacquemin Chabani.
L'agriculture dans votre province, et vous allez à votre tour distribuer selon la politique provinciale de votre gouvernement à une structure. Vous aurez le devoir et l'obligation de vous assurer qu'il est utilisé à bon usage et qu'il est protégé, conservé, et cela pour le bien-être de nos produits, monsieur le gouverneur.
Outre les officiels, quelques entreprises, des entrepreneurs agricoles et des maraîchers ont pris part à cette cérémonie.
Désormais, au Congo central, dans toutes les entités, chaque motocycliste paiera à un seul guichet 1000 francs congolais pour la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. La signature du protocole d'accord entre les parties prenantes de cette taxe, dont la direction générale des recettes, les mairies et communes, a eu lieu hier jeudi après 3 mois de pourparlers. Le président de l'association des motocyclistes du Congo central, Bamo Bamonekene, salue la mutualisation de cette taxe, laquelle, selon lui, vient mettre fin aux tracasseries dans les motocyclistes. Les cyclistes sont victimes avec la multiplicité des taxes journalières. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Avant la signature de cet accord de mutualisation dans le cadre du guichet unique de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction, la province, via la Direction générale des recettes, percevait auprès des motocyclistes 500 francs de la taxe spéciale pour la reconstruction. La mairie aussi, de son côté, percevait 500 francs de la taxe de stationnement. Les communes, à leur tour, faisaient de même avec la taxe de numérotation. Ceci était à la base des différents mouvements de protestation des motocyclistes à travers la province. Pour les motocyclistes du Congo central, cette mutualisation marque la fin de la multiplicité des taxes. Bamo Bamonekene, président de l'association des motocyclistes du Congo central.
Nous avons voulu assez que nos entités respectives, à travers ces taxes, que nos entités puissent quand même se retrouver. Les motocyclistes sont tenus de payer cette taxe qui est purement légale.
Signalons que les recettes générées par cette taxe spéciale conventionnelle de reconstruction seront partagées entre les parties prenantes, dont la province, les mairies ainsi que les communes. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Nord Kivu, la mesure suspendant la navigation la nuit sur le lac Kivu affecte beaucoup les échanges commerciaux entre les populations de Goma et Bukavu, mais surtout les villages riverains du lac. C'est ce que déclare une association des droits humains dénommée ULPA, Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs. Dans une déclaration rendue publique mercredi à Goma au cours d'un point de presse, cette organisation demande au ministre des Transports et Communications de lever la dite mesure qui n'est pas favorable à la population. Sifa Maguru revient sur cette question dans ce reportage.
Dans sa correspondance adressée au ministre des Transports et Voies de Communication le 11 octobre dernier, ULPA présente au ministre plusieurs arguments qui prouvent que la navigation des nuits est la plus sécurisée et qu'elle facilite les échanges commerciaux entre les villes et villages riverains du lac. Son président, Nyakasane Manigabe Emmanuel, explique.
Tous les experts ont montré clairement que la navigation de nuit est très bonne que la navigation de la journée parce que le lac est stable. C'est pourquoi vous voyez même ceux qui utilisent les pirogues motorisées passent facilement sans aucun souci la nuit. Ceux qui ne peuvent pas faire facilement la journée. Nous lui demandons de lever ces dispositions-là.
Il ajoute qu'au plan économique, cette mesure va provoquer des conséquences néfastes sur la vie des populations déjà meurtries par la guerre.
Le ministre doit comprendre que le lac Kivu, c'est un lac qui est de la population point de vue économique. Je dis que quelqu'un qui pouvait quitter Goma, il va à Bukavu. Il sort le matin. Il arrive à Bukavu à 16h, 17h. Il vendra sa marchandise quand? Il passera la nuit où? Ce n'est pas un lac de tourisme, non?
Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Autre aspect d'actualité, toujours dans le Nord Kivu, la Fédération des entreprises du Congo, FEC Kassindi Lubiria, dénonce la recrudescence de l'insécurité dans cette commune rurale du territoire de Beni, située à la frontière avec l'Ouganda. Des cas d'incursions nocturnes, souvent accompagnés d'attaques à l'arme blanche, se multiplient dans certains foyers. Le vice-président de la FEC locale, Profil Kalengia, attribue cette situation à la délocalisation depuis plusieurs semaines du marché aux poissons de Kassindi Lubiria vers l'Ouganda voisin, privant ainsi de nombreux jeunes de leur emploi. Il appelle à l'implication du gouvernement pour le retour de ce marché à Kassindi Lubiria. Profil Kalengia est au téléphone avec Martial Papi Mukeba.
Il y a plusieurs conséquences aujourd'hui maintenant au niveau sécuritaire. À Kassindi, on vit une insécurité qui ne porte pas son nom jusque-là. Nous avons enregistré plus de 15 cas de blessures à la machette, à la tête. Et cela dans les domiciles de la victime, à l'intérieur de la maison. Nous demandons au service de sécurité de fournir encore plus d'efforts et plus de stratégies, car estimons que cela, c'est l'une des conséquences de la délocalisation du marché de poissons, car plusieurs personnes, plusieurs couches sociales y travaillaient, et lorsque le marché est déjà de l'autre côté de l'Ouganda, eh bien, les gens ont perdu leur travail, et cela entraîne le banditisme au niveau de la frontière de Kassindi. Le gouvernement doit essayer de voir comment ramener ce marché au niveau du Congo, au niveau de la frontière de Kassindi.
Dans le sud Kivu voisin, la coalition congolaise pour la justice transitionnelle vient de sensibiliser les femmes survivantes des massacres de Mwenga 1999 sur les pratiques de résilience. Des femmes venues de plusieurs coins du territoire de Mwenga ont participé aux cérémonies commémoratives du 25e anniversaire des massacres de Kasika. Activité tenue du 14 au 17 octobre en perspective de la journée internationale de la femme rurale. C'est là, à Mwenga, que des milliers de femmes ont été enterrées vivantes par les rebelles du RC. Soutenu par les militaires de l'armée patriotique rwandaise. Jean Kassami, reportage.
Le thème principal était axé sur le rôle de chaque structure citoyenne en vue de maintenir en alerte la conscience collective sur le massacre commis contre la population civile. La CCJT avait choisi la Journée internationale de la femme rurale pour tenir ses colloques au chef-lieu du territoire de Mwenga.
Nous avons essayé de réfléchir sur un certain nombre de problèmes qui doivent être pris en charge par un comité mis en place. Et ce comité va essayer de voir comment les femmes du territoire de Mwenga vont nourrir la communauté.
Lors de sa prise de parole, le vicaire de Kamituga a exposé sur l'implication de l'Église dans le processus de lutte pour les droits des femmes enterrées vivantes.
Je suis personnellement marqué par la participation des mamans qui sont venues de très loin. Cela a donné vraiment une bonne image à l'événement que nous sommes en train de célébrer et on peut trouver la justice qu'on est en train de chercher et la réparation.
La présence des Bami Kalenga et Lungangi avec leurs épouses a réconforté leurs administrés qui attendent impatiemment à ce que les droits soient dits pour honorer les victimes et soulager tant soit peu les survivants. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
L'épidémie de choléra est enregistrée dans plusieurs zones de santé du Haut-Katanga. Depuis le début de l'année, plus de 3000 cas ont été enregistrés avec plus de 160 décès. Cependant, dans la zone de santé Lukafu où se vit cette épidémie, certaines personnes indiquent que cette zone de santé ne bénéficie pas de l'appui du gouvernement dans la lutte contre cette maladie qui a déjà causé mort d'homme. Allégation rejetée par le ministre de la Santé du Haut-Katanga, Joseph Sambi Bulanda, joint par Jean Ndukabungu.
Le choléra sévit de manière endémo-épidémique dans notre province et la province réagit toujours de manière prompte et de manière équitable dans toutes les zones de santé. Il y a une stratégie de prépositionnement des intrants au niveau des bureaux centraux pour intervenir dès l'annonce d'un simple cas. Et ces mêmes intrants sont prépositionnés dans les zones les plus reculées. Pour le cas de Lukaf, 68 cas ont été notifié depuis la première semaine jusqu'à ce jour avec 6 décès. Les intrants ont été bien livrés et depuis le début de l'année, la province connaît un cumul de 3075 cas avec 168 décès. Les gens qui ont déclaré ne pas avoir reçu l'appui de la province n'ont qu'à motiver leur déclaration. Nous, nous faisons notre part comme gouvernement et l'équipe provinciale intervient toujours pour aider toutes les zones de santé de manière équitable.
Bonne nouvelle pour les nouveaux diplômés d'État dans le territoire de Bokungu, province de la Tchouapa. Ils n'auront plus à effectuer plus de 1000 kilomètres pour les études universitaires dans d'autres villes du pays. L'université Widal de Bokungu ouvre ses portes sur place dès la rentrée académique 2024-2025. Lancé depuis septembre dernier, cet établissement privé organise le système LMD. Déjà, les inscriptions sont en cours dans 10 filières ainsi que 17 mentions ou département.
Actualité internationale.
La justice a suspendu le processus de remplacement du vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, empêchant le président William Ruto de nommer un successeur tant que l'affaire n'est pas jugée. Ce jeudi, le Sénat kényan avait déjà suspendu l'audience de destitution du vice-président Rigathi Gachagua en raison de son hospitalisation pour des douleurs thoraciques. Gachagua a plaidé non coupable des 11 chefs d'accusation qui le visent. La Cour examinera l'affaire en profondeur pour déterminer si les accusations justifiant la destitution de M. Gachagua sont valides. Et puis, l'Égypte a augmenté vendredi les prix des carburants de 10 à 17%, une mesure susceptible d'avoir un impact sur le coût des biens et des services. Le gouvernement égyptien a indiqué dans un communiqué publié sur Facebook que cette décision avait été prise pour réduire l'écart entre les prix de vente des produits pétroliers et leur coût élevé de production et d'importation.
L'invité.
Thérèse Kulungu, membre du conseil d'administration de la fondation Panzi basée à Bukavu, Sud-Kivu, a reçu depuis quelques jours de l'organisation Mère pour la paix France le prix Femme de paix 2024 à Lille en France. Invitée de Radio Okapi, elle plaide pour la mise en œuvre de la justice transitionnelle en vue d'amener les victimes de ces violences à obtenir justice et réparation. Thérèse Kulungu s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame Thérèse Kulungu.
Bonjour.
Vous avez reçu le prix des femmes de paix 2024 il y a quelques jours à Lille, en France, de la part de l'organisation Mère pour la paix France. Quel est le sens que vous donnez à cette récompense internationale?
L'organisation Mère pour la paix France a organisé le congrès sur la force de la femme. Elle fêtait leur 30e année d'existence. Et c'est dans ce cadre que cette organisation m'a invité pour m'honorer. Je suis l'initiatrice des cliniques juridiques de la Fondation Panzi depuis 2009. L'objectif, c'était de briser le silence. C'était de permettre à ces femmes de retrouver leurs droits.
Madame Thérèse, si je comprends bien, le prix appartient plutôt à la Fondation Panzi.
Non, pas qu'à la Fondation Panzi, mais... à cause du travail que j'ai effectué pendant longtemps à la Fondation Panzi depuis 2009.
Dans cette clinique, qu'est-ce que vous faites exactement?
Dans cette clinique, on accompagne les victimes de viols, violences sexuelles et violences basées sur le genre. Disons, les femmes qui arrivent dans ces cliniques sont accompagnées d'une manière juridique et judiciaire. Il y a là des juristes qui sont, il y a les assistantes sociales qui les accompagnent pour toute la procédure devant les tribunaux.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir ou comprendre exactement du prix Femmes de paix?
Femmes de paix, c'est une organisation qui travaille sur la paix. Comme la Fondation Panzi, avec leur leader qui est le docteur Mukwege, œuvre pour la paix. Et non, c'est, travaillons sur les violences sexuelles. Mais le docteur Mukwege est presque le promoteur de la justice transitionnelle en RDC.
Que représente une telle récompense pour vous d'abord et pour toutes les femmes congolaises?
On me reconnaît comme une femme de paix à cause du travail que je fais. Quand les femmes ont recouvré leurs droits, leur dignité, et j'ai accompagné ces femmes, et je continue à les accompagner jusqu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, même dans les plaidoyers que nous menons sur la justice transitionnelle, sur la mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle. Donc je suis actrice de la paix.
Après ces prix, Madame Thérèse Kulungu, quelle est la place que vous donnez à la lutte contre les violences sexuelles en RDC?
La lutte contre les violences sexuelles, c'est tout un processus. Donc nous allons continuer la lutte jusqu'à ce qu'on ne parlera plus de ces violences au Congo, dans le but de faire comprendre à la population que l'homme et la femme doivent cohabiter ensemble. L'homme et la femme ont le même droit et l'homme doit regarder la femme comme son semblable. Et non comme un être inférieur.
Au lendemain de la remise de cette récompense, quel est le message que vous pouvez lancer d'abord à vos semblables femmes et aux autorités congolaises et à toute la population de la RDC?
Dans cette guerre, c'est la femme qui est la cible. Souviens-toi que le viol a été utilisé ou continue à être utilisé comme arme de guerre. Alors pour mettre fin à tout ça, nous réclamons la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. Nous demandons aux autorités congolaises de manifester une volonté pour la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. Bien sûr qu'il y a maintenant les Fonarev, mais on ne doit pas s'arrêter à Fonarev. Ça, c'est un seul aspect. On a créé maintenant une confusion. Les bourreaux d'hier sont les dirigeants d'aujourd'hui. Ils sont dans toutes les institutions. Soit ils sont dans la police, dans l'armée, ils sont ministres, ils sont députés, ils sont partout. Ils créent une confusion. Mais dans tout ça, ils continuent à traumatiser les victimes. Ça doit se terminer. Nous réclamons la réforme des institutions, c'est-à-dire que ceux qui ont commis des crimes, tous ceux qui sont cités d'une manière ou d'une autre, dans différents rapports, que ce soit même les criminels économiques, tous ceux qui sont en train de détourner de l'argent, ils ne peuvent plus, normalement, prétendre diriger les institutions. Demandons à la population congolaise de prendre conscience.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Madame Thérèse.
Merci beaucoup, Monsieur Blais.
Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal préparée par Alain Hirong, Jacques-Yves Molima et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté et Pierre Diassino assure la prise de son et la mise en onde.